Chapitre 4. La maison du gazetier. Comment deux amis deviennent ennemis. La maison de la rue Neuve Saint-Gilles. C'était le lendemain du jour où les Portugais avaient fait affaire avec Böhmer et trois jours après le bal de l'opéra auquel nous avons vu assister quelques-uns des principaux personnages de cette histoire. Dans la rue Montorgueil, au fond d'une cour fermée par une grille, s'élevait une petite maison longue et mince, défendue du bruit de la rue par des contrevents qui rappelaient la vie de province. Au fond de cette cour, le rez-de-chaussée, qu'il fallait aller chercher en sondant différents guets de deux ou trois trous punais, offrait une espèce de boutique à demi ouverte à ceux qui avaient franchi l'obstacle de la grille et l'espace de la cour. C'était la maison d'un journaliste assez renommé, d'un gazetier, comme on disait alors. Le rédacteur habitait le premier étage. Le rez-de-chaussée servait à empiler les livraisons de la gazette étiquetées par numéro. Les deux autres étages appartenaient à des gens tranquilles qui payaient bon marché le désagrément d'assister plusieurs fois l'an à des scènes bruyantes faites aux gazetiers par des agents de police, des particuliers offensés ou des acteurs traités comme des ilotes. Ces jours-là, les locataires de la maison de la Grille, on l'appelait ainsi dans le quartier, fermaient leurs croisées sur le devant afin de mieux entendre les abois du gazetier qui, poursuivi, se réfugiait ordinairement dans la rue des Vieux Augustins par une sorte de plain-pied avec sa chambre. Une porte dérobée s'ouvrait, se refermait, le bruit cessait, l'homme menacé avait disparu. Les assaillants se trouvaient seuls en face des quatre filiers des gardes françaises qu'une vieille servante était allée vite requérir au poste de la halle. Il arrivait bien de ça et de là que les assaillants, ne trouvant personne sur qui décharger leur colère, s'en prenaient aux paperasses mouillées du rez-de-chaussée et ils lacéraient, trépignaient ou brûlaient, si par malheur il y avait du feu dans les environs, une certaine quantité des papiers coupables. Mais qu'est-ce qu'un morceau de gazette pour une vengeance qui demandait des morceaux de peau du gazetier? À ces scènes frais, la tranquillité de la maison de la Grille était proverbiale. Monsieur Retaux sortait le matin, faisait sa ronde sur les quais, les places et les boulevards, il trouvait les ridicules, les vices, et les annotait, les crayonnait au vif et les couchait tout portraituré dans son plus prochain numéro. Le journal était hebdomadaire. C'est-à-dire que pendant quatre jours, le sieur Retaux chassait l'article, le faisait imprimer pendant les trois autres jours et menait du bon temps le jour de la publication du numéro. La feuille venait de paraître le jour dont nous parlons, 72 heures après le bal de l'opéra où Mademoiselle Oliva avait pris tant de plaisir au bras du domino bleu. Monsieur Retaux, en se levant à 8 heures, reçut de sa vieille servante le numéro du jour, encore humide et puant, sous sa robe gris-rouge. Il s'empressa de lire ce numéro avec le soin qu'un tendre père met à passer en vue les qualités ou les défauts de son fils chéri. Puis, quand il finit, « Aldegonde, dit-il à la vieille, voilà un joli numéro, l'as-tu lu ?»« Pas encore, ma soupe n'est pas finie, dit la vieille. » « Je suis content de ce numéro, » dit le gazetier, en élevant sur son maigre lit ses bras encore plus maigres. « Oui, » répliqua Aldegonde, « mais savez-vous ce qu'on en dit à l'imprimerie ?»« Que dit-on ? On dit que, certainement, vous n'échapperez pas cette fois à la Bastille. » Retaux se mit sur son séant et d'une voix calme, « Aldegonde, Aldegonde, » dit-il, « fais-moi une bonne soupe et ne te mêle pas de littérature. » « Oh, toujours le même !» répliqua la vieille, « téméraire comme un moineau franc !»« Je t'achèterai des boucles avec le numéro d'aujourd'hui, » fit le gazetier, roulé dans son drap d'une blancheur équivoque. « Est-on venu chercher déjà beaucoup d'exemplaires ?»« Pas encore, et mes boucles ne seront pas bien reluisantes si cela continue. Vous rappelez-vous le bon numéro contre Monsieur de Blois ? Il était pas 10 heures qu'on avait déjà vendu 100 numéros. » J'avais passé 3 fois rue des Vieux Augustins, dit Retaux. Chaque bruit me donnait la fièvre. Ces militaires sont brutaux. J'en conclus, poursuivit Aldegonde tenace, que ce numéro d'aujourd'hui ne vaudra pas celui de Monsieur de Blois. Soit, dit Retaux, mais je n'aurai pas tant à courir et je mangerai tranquillement ma soupe. Sais-tu pourquoi, Aldegonde? Ma foi non, monsieur. C'est qu'au lieu d'attaquer un homme, j'attaque un corps. Au lieu d'attaquer un militaire, j'attaque une reine. Ah, la reine, Dieu soit loué, murmura la vieille. Alors ne craignez rien. Si vous attaquez la reine, vous serez porté en triomphe et nous allons vendre du numéro et j'aurai mes boucles. Ah, on sonne, dit Retaux, rentré dans son lit. La vieille courut à la boutique pour recevoir la visite. Un moment après, elle remontait enluminée, triomphante. 1 000 exemplaires, disait-elle, 1 000 d'un coup. Ah, voilà une commande. À quel nom? Dit vivement Retaux. Je ne sais. Ah, il faut le savoir, cours vite. Oh, nous avons le temps. Ce n'est pas peu de choses que de compter, de ficeler et de charger 1 000 numéros. Cours vite, te dis-je, et demande au valet. Est-ce un valet? C'est un commissionnaire, un auvergnat avec ses crochets. Bon, questionne, demande-lui où il va porter les numéros. Aldegonde fit diligence. Ses grosses jambes firent gémir l'escalier de bois criard, et sa voix qui interrogeait ne cessa de résonner à travers les planches. Le commissionnaire répliqua qu'il portait ses numéros rue Neuve-Saint-Gilles, au Marais, chez le comte de Cagliostro. Le gazetier eut un bond de joie qui faillit défoncer sa couchette. Il se leva, vint lui-même activer la livraison, confiée aux soins d'un seul commis, sorte d'ombre famélique plus diaphane que les feuilles imprimées. Les 1 000 exemplaires furent chargés sur les crochets de l'Auvergnat, lequel disparut par la grille, courbé sous le poids. Le sieur Retaux se disposait à noter pour le prochain numéro le succès de celui-ci et à consacrer quelques lignes au généreux seigneur qui voulait bien prendre 1 000 numéros d'un pamphlet prétendu politique. Monsieur Retaux, disons, se félicitait d'avoir fait une si heureuse connaissance lorsqu'un nouveau coup de sonnette retentit dans la cour. Encore 1 000 exemplaires, fit Aldegonde, alléchée par le premier succès. Ah, monsieur, ce n'est pas étonnant, dès qu'il s'agit de l'Autrichienne, tout le monde veut faire chorus. Silence, silence, Aldegonde, ne parle pas si haut. L'Autrichienne, c'est une injure qui me vaudrait la Bastille, tu m'as prédite. Quoi? Fit aigrement la vieille. Est-elle, oui ou non, Autrichienne? C'est un mot que nous autres journalistes nous mettons en circulation, mais qu'il ne faut pas prodiguer. Nouveau coup de sonnette. Va voir, Aldegonde, je ne crois pas que ce soit pour acheter des numéros. Qui vous fait croire cela? Dit la vieille en descendant. Je ne sais, il me semble que je vois un homme de figure lugubre à la grille. Aldegonde descendait toujours pour ouvrir. Monsieur Retaux regardait, lui, avec une attention que l'on comprendra, depuis que nous avons fait la description du personnage et de son officine. Aldegonde ouvrit, en effet, un homme vêtu simplement, qui s'informa si l'on trouverait chez lui le rédacteur de la Gazette. Qu'avez-vous à lui dire? Demanda Aldegonde, un peu défiante, et elle entrebâillait à peine la porte, prête à le repousser, à la première apparence de danger. L'homme fit sonner des écus dans sa poche. Ce son métallique dilata le cœur de la vieille. Je viens, dit-il, payer les 1 000 exemplaires de la Gazette d'aujourd'hui qu'on est venu prendre au nom de monsieur le comte de Cagliostro. Ah, si c'est ainsi, entrez! L'homme franchit la grille, mais il ne l'avait pas refermée que derrière lui, un autre visiteur, jeune, grand et de belle mine, retint cette grille en disant pardon, monsieur. Et sans demander autrement la permission, il se glissa derrière le payeur envoyé par le comte de Cagliostro. Aldegonde, tout entière au gain, fascinée par le son des écus, arrivait au maître. Allons, allons, dit-elle, tout va bien. Voici les 500 livres du monsieur aux 1 000 exemplaires. Recevons-les noblement, dit Retaux en parodiant la rive dans sa plus récente création. Et il se drapa dans une robe de chambre assez belle, qu'il tenait de la munificence, ou plutôt de la terreur de madame Dugazon, à laquelle, depuis son aventure avec l'écuyer Astley, le gazetier soutirait bon nombre de cadeaux en tout genre. Le payeur de comte de Cagliostro se présenta, étala un petit sac d'écus de 6 livres et en compta jusqu'à 100 qu'il empila en 12 tas. Retaux comptait scrupuleusement et regardait si les pièces n'étaient pas rognées. Enfin, ayant trouvé son compte, il remercia, donna quittance et congédia avec un sourire agréable le payeur, auquel il demanda malicieusement des nouvelles de monsieur le comte de Cagliostro. L'homme aux écus remercia, comme d'un compliment tout naturel, et se retira. « Dites à monsieur le comte que je l'attends à son premier souhait, dit-il, et ajoutez qu'il soit tranquille, je sais garder un secret. » « C'est inutile, répliqua le payeur. Monsieur le comte de Cagliostro est indépendant et il ne croit pas au magnétisme. Il veut que l'on rie de monsieur Mesmer et propage l'aventure du baquet pour ses menus plaisirs. » « Bien, murmura une voix sur le seuil de la porte, nous tâcherons que l'on rie aussi aux dépens de monsieur le comte de Cagliostro. » Et M. Retaux vit apparaître dans sa chambre un personnage qui lui parut bien autrement lugubre que le premier. C'était, comme nous l'avons dit, un homme jeune et vigoureux, mais Retaux ne partagea point l'opinion que nous avons émise sur sa bonne mine. Il lui trouva l'œil menaçant et la tournure menaçante. En effet, il avait la main gauche sur le pommeau d'une épée et la main droite sur le pommeau d'une canne. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» demanda Retaux avec une sorte de tremblement qui lui prenait à chaque occasion un peu difficile. Il résulte que, comme les occasions difficiles n'étaient pas rares, Retaux tremblait souvent. « Monsieur Retaux ?» demanda l'inconnu. « C'est moi. Qui se dit de Villette ?»« C'est moi, monsieur. Gazetier. C'est bien moi, toujours. Auteur de l'article que voici. » dit froidement l'inconnu en tirant de sa poche un numéro frais encore de la Gazette du jour. « J'en suis effectivement non pas l'auteur, dit Retaux, mais le publicateur. Très bien, mais cela revient exactement au même, car si vous n'avez pas eu le courage d'écrire l'article, vous avez eu la lâcheté de le laisser paraître. » « Je dis lâcheté, répéta l'inconnu froidement, parce qu'étant gentilhomme, je tiens à mesurer mes termes, même dans ce bouge. Mais il ne faut pas prendre ce que je dis à la lettre, car ce que je dis n'exprime pas ma pensée. Si j'exprimais ma pensée, je dirais « celui qui a écrit l'article est un infâme, celui qui l'a publié est un misérable. »« Monsieur, dit Retaux, devenant fort pâle, « Ah, dame, voilà une mauvaise affaire, c'est vrai, » continua le jeune homme, s'animant au fur et à mesure qu'il parlait. « Mais écoutez donc, monsieur le folliculaire, chaque chose à son tour. Tout à l'heure, vous avez reçu les écus, maintenant, vous allez recevoir les coups de bâton. »« Oh !» s'écria Retaux, « nous allons voir. »« Qu'allons-nous voir ?» fit d'un ton bref et tout militaire le jeune homme, qui, en prononçant ces mots, s'avança vers son adversaire. Mais celui-ci n'en était pas à la première affaire de ce genre. Il connaissait les détours de sa propre maison. Il n'eut qu'à se retourner pour trouver une porte, la franchir, en repousser le battant, s'en servir comme d'un bouclier, et gagner de là une chambre adjacente qui aboutissait à la fameuse porte du dégagement donnant sur la rue des Vieux Augustins. Une fois là, il était en sûreté. Il y trouvait une autre petite grille qu'en un tour de clé, et la clé était toujours prête, il ouvrait en se sauvant à toutes jambes. Mais ce jour-là était un jour néfaste pour ce pauvre gazetier, car au moment où il mettait la main sur cette clé, il aperçut par la claire-voie un autre homme qui, grandi sans doute par l'agitation du sang, lui parut un Hercule et qui, immobile, menaçant, semblait attendre comme jadis le dragon d'Hespérus attendait les mangeurs de pommes d'or. Retaux eût bien voulu revenir sur ses pas, mais le jeune homme à la canne, celui qui le premier s'était présenté à ses yeux, avait enfoncé la porte d'un coup de pied, l'avait suivi, et maintenant il s'était arrêté par la vue de cette autre sentinelle, armée aussi d'une épée et d'une canne, et il n'avait qu'une main à étendre pour le saisir. Retaux se trouvait pris entre deux feux, ou plutôt entre deux cannes, dans une espèce de petite cour obscure, perdue, sourde, située entre les dernières chambres de l'appartement et la bienheureuse grille qui donnait sur la rue de Saint-Augustin, c'est-à-dire si le passage eût été libre sur le salut et la liberté. « Monsieur, laissez-moi passer, je vous prie, » dit Retaux au jeune homme qui gardait la grille. « Monsieur !» s'écria le jeune homme qui poursuivait Retaux. « Monsieur, arrêtez ce misérable !»« Soyez tranquille, monsieur de Charny, il ne passera pas !» dit le jeune homme de la grille. Monsieur de Tavernet, vous! S'écria Charny, car c'était lui, en effet, qui s'était présenté le premier chez Retaux à la suite du payeur et par la rue Montorgueil. Tous deux, en lisant la Gazette, avaient eu la même idée, parce qu'ils avaient dans le cœur le même sentiment, et sans se le communiquer le moins du monde l'un à l'autre, ils avaient mis cette idée à exécution. C'était de se rendre chez le gazetier, de lui demander satisfaction et de le bâtonner s'il ne la leur donnait pas. Seulement, chacun d'eux, en apercevant l'autre, éprouva un mouvement de mauvaise humeur. Chacun devinait un rival dans l'homme qui avait éprouvé la même sensation que lui. Aussi ce fut avec un accent assez maussade que M. de Charny prononça ces quatre mots « Monsieur de Tavernet, vous ?»« Moi-même, » répondit Philippe avec le même accent dans la voix, en faisant de son côté un mouvement vers le gazetier suppliant qui passait ses deux bras par la grille. « Moi-même, mais il paraît que je suis arrivé trop tard. Eh bien, je ne ferai qu'assister à la fête, à moins que vous n'ayez la bonté de m'ouvrir la porte. »
« Là, la fête !» murmura le gazetier épouvanté. « La fête, que dites-vous donc là? Allez-vous m'égorger, messieurs ?»«
Oh, dit Charny, le mot est fort. Non, monsieur, nous ne vous égorgerons pas, mais nous vous interrogerons d'abord, ensuite nous verrons. Vous permettez que j'en use à ma guise avec cet homme, n'est-ce pas, monsieur de Tavernet ?»
« Assurément, monsieur, répondit Philippe, vous avez le pas, étant arrivé le premier. »
« Ça, collez-vous au mur et ne bougez pas !» dit Charny en remerciant du geste Tavernet.
« Vous avouez donc, mon cher monsieur, avoir écrit et publié contre la reine le comte Badin, vous l'appelez ainsi, qui a paru ce matin dans votre gazette. »«
Monsieur, ce n'est pas contre la reine. »«
Ah bon, il ne manquait plus que cela. »
Ben, « Vous êtes bien patient, monsieur, » dit Philippe, rageant de l'autre côté de la grille.
« Soyez tranquille, » répondit Charny, « le drôle ne perdra pas pour attendre. »«
Oui, » murmura Philippe, « mais c'est que moi aussi j'attends. » Charny ne répondit pas, à Tavernet du moins, mais se tournant vers le malheureux Retaux.
« Etteniotna, c'est Antoinette retourné.
Oh, ne manquez pas, monsieur, ce serait si plat et si vil qu'au lieu de vous battre ou de vous tuer proprement, je vous écorcherais tout vif.
Répondez donc, et catégoriquement, je vous demandais si vous étiez le seul auteur de ce pamphlet. »«
Je ne suis pas un délateur, » répliqua Retaux en se redressant.
Très bien, cela veut dire qu'il y a un complice. D'abord, cet homme qui vous a fait acheter 1000 exemplaires de cette diatribe, le comte de Cagliostro, comme vous disiez tout à l'heure, soit le comte paiera pour lui lorsque vous aurez payé pour vous.
« Monsieur, monsieur, je ne l'accuse pas !» hurla le gazetier, redoutant de se trouver pris entre les deux colères de ces deux hommes, sans compter celle de Philippe qui pâlissait de l'autre côté de la grille.
« Mais, continua Charny, comme je vous tiens le premier, vous paierez le premier. »
Et il leva sa canne.
« Monsieur, si j'avais une épée !» hurla le gazetier.
Charny baissa sa canne.
« Monsieur Philippe, dit-il, prêtez votre épée à ce coquin, je vous prie. »
« Point de cela, je ne prête point une épée honnête à ce drôle. Voici ma canne, si vous n'avez point assez de la vôtre. Mais je ne puis consciencieusement faire autre chose pour lui et pour vous. »
« Corbleu, une canne !» dit Retaux exaspéré.
« Savez-vous, monsieur, que je suis gentilhomme ?»«
Alors prêtez-moi votre épée à moi, » dit Charny, en jetant la sienne aux pieds du gazetier. « J'en serai quitte pour ne plus toucher à celle-ci. »
Philippe n'avait plus d'objection à faire, il tira son épée du fourreau et la passa à travers la grille à Charny. Charny la prit en saluant.
« Ah, tu es gentilhomme, » dit-il en se retournant du côté de Retaux.
« Tu es gentilhomme et tu écris contre la reine de France de pareilles infamies. Eh bien, ramasse cette épée et prouve que tu es gentilhomme. »
Mais Retaux ne bougea point. On eût dit qu'il avait aussi peur de l'épée qui était à ses pieds que de la canne qui, un instant, avait été au-dessus de sa tête.
« Mordieu !» dit Philippe exaspéré, « ouvrez-moi donc cette grille !»«
Pardon, monsieur, » dit Charny, « mais vous en êtes convenu, cet homme est à moi d'abord.
Alors hâtez-vous d'en finir, car j'ai moi hâte de commencer. »
Je devais épuiser tous les moyens avant d'en arriver à ce moyen extrême, dit Charny, car je trouve que les coups de canne coûtent presque autant à donner qu'à recevoir, et puisque bien décidément, monsieur préfère les coups de canne aux coups d'épée, soit il sera servi à sa guise. À peine ces mots étaient-ils achevés qu'un cri poussé par Retaux annonça que Charny venait de joindre l'effet aux paroles. 5 ou 6 coups vigoureusement appliqués, dont chacun tira un cri équivalent à la douleur qu'il produisait, suivirent le premier. Ces cris attirèrent la vieille Aldegonde, mais Charny s'inquiéta aussi peu de ces cris qu'il s'était inquiété de ceux de son maître. Pendant ce temps, Philippe, placé comme Adam de l'autre côté du paradis, se rongeait les doigts, faisait le manège de l'ours qui sent la chair fraîche en avant de ses barreaux. Enfin Charny s'arrêta, las d'avoir battu, et Retaux se prosterna, las d'être rossé. « Là, dit Philippe, avez-vous fini, monsieur ?»« Oui, dit Charny. Eh bien maintenant, rendez-moi mon épée qui vous a été inutile, et ouvrez-moi, je vous prie. » « Monsieur, monsieur !» implora Retaux, qui voyait un défenseur dans l'homme qui avait terminé ses comptes avec lui. « Vous comprenez que je ne puis laisser monsieur à la porte, » dit Charny, « je vais donc lui ouvrir. »« Oh, c'est un meurtre !» s'écria Retaux. « Voyons, tuez-moi tout de suite d'un coup d'épée, que ce soit fini !»« Oh, maintenant, » dit Charny, « rassurez-vous, je crois que monsieur ne vous touchera même pas. » « Mais vous avez raison, dit avec un souverain mépris Philippe qui venait d'entrer, je n'ai garde. Vous avez été bien roué, et comme dit l'axiome légal, non bis in idem. Mais il reste des numéros de l'édition, et ces numéros, il est important de les détruire. « Ah, très bien, dit Charny. Voyez-vous que mieux vaut être deux qu'un seul, j'eusse peut-être oublié cela. Mais par quel hasard étiez-vous à cette porte, monsieur de Tavernet ?» Voici, dit Philippe, je me suis fait instruire dans le quartier des mœurs de ce coquin, j'ai appris qu'il avait l'habitude de fuir quand on lui serrait le bouton, alors je me suis enquis des moyens de fuite, et j'ai pensé qu'en me présentant par la porte dérobée au lieu de me présenter par la porte ordinaire, et qu'en refermant cette porte derrière moi, je prendrais mon renard dans son terrier. La même idée de vengeance vous était venue, seulement plus pressée que moi, vous aviez pris des informations moins complètes. Vous êtes entré par la porte de tout le monde, et il allait vous échapper quand, heureusement, vous m'avez trouvé là. « Et je m'en réjouis. Venez, monsieur de Tavernet, ce drôle va nous conduire à sa presse. »« Ma presse n'est pas ici, » dit Retaux. « Mensonge !» s'écria Charny, menaçant. « Non, non, » s'écria Philippe, « vous voyez bien qu'il a raison, les caractères sont déjà distribués, il n'y a plus que l'édition. Or, l'édition doit être entière, sauf les 1000 vendus à monsieur de Cagliostro. Alors il va déchirer cette édition devant nous. » Il va la brûler, c'est plus sûr. Et Philippe, approuvant ce mode de satisfaction, poussa Retaux et le dirigea vers la boutique. Cependant, Aldegonde, ayant entendu crier son maître et ayant trouvé la porte fermée, était allé chercher la garde. Mais avant qu'elle ne fût de retour, Philippe et Charny avaient eu le temps d'allumer un feu brillant avec les premiers numéros de la Gazette, puis d'y jeter, lacérer successivement, les autres feuilles qui s'embrasaient à mesure qu'elles touchaient le rayon de la flamme. Les deux exécuteurs en étaient au dernier numéro, lorsque la garde parut derrière Aldegonde, à l'extrémité de la cour, et en même temps que la garde, sans polisson et autant de commères. Les premiers fusils frappaient la dalle du vestibule, quand le dernier numéro de la Gazette commençait à flamber. Heureusement, Philippe et Charny connaissaient le chemin que leur avait imprudemment montré Retaux. Ils prirent donc le couloir secret, fermèrent les verrous, franchirent la grille de la rue des Vieux Augustins, fermèrent la grille à double tour et en jetèrent la clé dans le premier égout qui se trouva là. Pendant ce temps, Retaux, devenu libre, criait à l'aide, au meurtre et à l'assassinat, et Aldegonde, qui voyait les vitres s'enflammer au reflet du papier brûlant, criait au feu. Les fusiliers arrivèrent, mais comme ils trouvèrent les deux jeunes gens partis et le feu éteint, ils ne jugèrent pas à propos de pousser plus loin leurs recherches. Ils laissèrent Retaux se bassiner le corps avec de l'eau de vie en frais et retournèrent au corps de garde. Mais la foule, plus curieuse que la garde, séjourna jusqu'à près de midi dans la cour de M. Retaux, espérant toujours que la scène du matin se renouvellerait. Aldegonde, dans son désespoir, blasphéma le nom de Marie-Antoinette en l'appelant l'Autrichienne et bénit celui de M. Cagliostro en l'appelant le protecteur des lettres. Lorsque Tavernet et Charny se trouvèrent dans la rue des Vieux Augustins, « Monsieur, dit Charny, maintenant que notre exécution est finie, puis-je espérer que j'aurai le bonheur de vous être bon à quelque chose ?»« Mille grâces, monsieur, j'allais vous faire la même question. » Merci, j'étais venu pour affaires particulières qui vont me tenir à Paris probablement une partie de la journée. Et moi aussi, monsieur. Permettez donc que je prenne congé de vous et que je me félicite de l'honneur et du bonheur que j'ai eu de vous rencontrer. Permettez-moi de vous faire le même compliment et d'y ajouter tout mon désir que l'affaire pour laquelle vous êtes venu se termine selon vos souhaits. Les deux hommes se saluèrent avec un sourire et une courtoisie à travers laquelle il était facile de voir que, dans toutes les paroles qu'ils venaient d'échanger, les lèvres seules avaient été en jeu. Et se quittant, tous deux se tournèrent le dos, Philippe remontant vers le boulevard et Charny descendant du côté de la rivière. Tous deux se retournèrent deux ou trois fois jusqu'à ce qu'ils se fussent perdus de vue. Et alors Charny, qui, ainsi que nous l'avons dit, était remonté du côté de la rivière, prit la rue Beaurepaire, puis après la rue Beaurepaire, la rue du Renard, puis la rue du Grand Hurleur, la rue Jean-Robert, la rue de Gravilliers, la rue Pastourelle, la rue d'Anjou, du Perche, Culture Sainte-Catherine, de Saint-Anastase et Saint-Louis. Arrivé là, il descendit la rue Saint-Louis et s'avança vers la rue Neuve-Saint-Gilles. Mais à mesure qu'il s'approchait, son œil se fixait sur un jeune homme qui, de son côté, remontait la rue Saint-Louis et qu'il croyait reconnaître. Deux ou trois fois, il s'arrêta, doutant, mais bientôt le doute disparut. Celui qui remontait était Philippe. Philippe, qui, de son côté, avait pris la rue Mauconseil, la rue aux Ours, la rue du Grenier Saint-Lazare, la rue Michel-le-Comte, la rue des Vieilles Audriettes, la rue de l'Homme Armé, la rue des Rosiaux, était passé de l'hôtel de Lamoignon et enfin avait débouché sur la rue Saint-Louis à l'angle de la rue de l'Égout-Sainte-Catherine. Les deux jeunes gens se trouvèrent ensemble à l'entrée de la rue Neuf-Saint-Gilles. Tous deux s'arrêtèrent et se regardèrent avec des yeux qui, cette fois, ne prenaient point la peine de cacher leurs pensées. Chacun d'eux avait eu, encore une fois, la même pensée, c'était de venir demander raison au comte de Cagliostro. Arrivé là, ni l'un ni l'autre ne pouvait douter du projet de celui en face duquel il se trouvait de nouveau. « Monsieur de Charny, dit Philippe, je vous ai laissé le vendeur, vous pourriez bien me laisser l'acheteur. Je vous ai laissé donner les coups de canne, laissez-moi donner les coups d'épée. »« Monsieur, répondit Charny, vous m'avez fait cette ganterie, je crois, parce que j'étais arrivé le premier, et point pour autre chose. » « Oui, mais ici, dit Tavernet, j'arrive en même temps que vous, et je vous le dis tout d'abord ici, je ne vous ferai point de concession. » Et qui vous dit que je vous en demande, monsieur, je défendrai mon droit, c'est tout. Et selon vous, votre droit, monsieur de Charny, est de faire brûler à monsieur de Cagliostro les 1000 exemplaires qu'il a achetés à ce misérable. Vous vous rappellerez, monsieur, que c'est moi qui le premier ai eu l'idée de les faire brûler rue Montorgueil. Eh bien, soit, vous les avez fait brûler rue Montorgueil, je les ferai déchirer, moi, rue Neuf-Saint-Gilles. Monsieur, je suis désespéré de vous dire que, très sérieusement, je désire avoir affaire le premier au comte de Cagliostro. Tout ce que je puis faire pour vous, monsieur, c'est de m'en remettre au sort. Je jetterai un louis en l'air, et celui de nous qui gagnera aura la priorité. Merci, monsieur, mais en général, j'ai peu de chance, et peut-être serais-je assez malheureux pour perdre. Et Philippe fit un pas en avant. Charny l'arrête. Monsieur, lui dit-il, un mot, et je crois que nous allons nous entendre. Philippe se retourna vivement. Il y avait dans la voix de Charny un accent de menace qui lui plaisait. Ah, dit-il, soit. Si pour aller demander satisfaction à monsieur de Cagliostro, nous passions par le bois de Boulogne, ce serait le plus long, je le sais bien, mais je crois que cela terminerait notre différend. L'un de nous resterait probablement en route, et celui qui reviendrait n'aurait de compte à rendre à personne. En vérité, monsieur, dit Philippe, vous allez au-devant de ma pensée. Oui, voilà en effet qui concilie tout. Voulez-vous me dire où nous nous retrouverons? Mais si ma société ne vous est pas trop insupportable, monsieur, comment donc? Nous pourrions ne pas nous quitter. J'ai donné hors ma voiture de venir m'attendre place royale, et comme vous savez, c'est à 2 pas d'ici. Alors vous voudrez bien m'y donner une place. Comment donc? Et avec le plus grand plaisir. Et les deux jeunes gens, qui s'étaient sentis rivaux au premier coup d'œil, devenus ennemis à la première occasion, se mirent à allonger le pas pour gagner la place royale. Au coin de la rue du Pas de la Mule, ils aperçurent le carrosse de Charny. Celui-ci, sans se donner la peine d'aller plus loin, fit un signe au valet de pied. Le carrosse s'approcha, Charny invita Philippe à y prendre place, et le carrosse prit la direction des Champs-Élysées. Avant de monter en voiture, Charny avait écrit 2 mots sur ses tablettes et fait porter ces mots par son valet de pied à son hôtel de Paris. Et les chevaux de monsieur de Charny étaient excellents. En moins d'une demi-heure, ils furent au bois de Boulogne. Charny arrêta son cocher quand il eut trouvé dans le bois un endroit convenable. Le temps était beau, l'air un peu vif, mais déjà le soleil humait avec force les premiers parfums des violettes et des jeunes pousses de sureau aux abords des chemins et sous la lisière du bois. Sur les feuilles jaunies de l'année précédente, l'herbe montait orgueilleusement, parée de ses graines à panaches mouvants, les ravenelles d'or laissaient tomber leurs têtes parfumées le long des vieux murs. « Il fait un beau temps pour la promenade, n'est-ce pas, monsieur de Tavernet ?» dit Charny. « Beau temps, oui, monsieur. » Et tous deux descendaient. « Partez, dauphin, » dit Charny à son cocher. « Monsieur, » dit Tavernet, « vous avez peut-être tort de renvoyer votre carrosse. L'un de nous pourrait bien en avoir besoin pour s'en retourner. »« Avant tout, monsieur, le secret, » dit Charny, « le secret sur toute cette affaire. Confiée à un laquais, elle risque d'être demain le sujet des conversations de tout Paris. » « Ce sera comme il vous plaira, monsieur, mais le drôle qui nous a amenés sait certainement déjà de quoi il s'agit. Ces espèces de gens connaissent trop les façons des gentilshommes pour ne pas se douter que, lorsqu'ils se font conduire au bois de Boulogne de Vincennes ou de Satory, au train dont ils nous a menés, ce n'est point pour y faire une simple promenade. Ainsi, je le répète, votre cocher sait déjà à quoi s'en tenir. Maintenant, j'admets qu'il ne le sache pas. Il me verra ou vous verra blessé, tué peut-être, et ce sera bien assez pour qu'il comprenne, quoiqu'un peu tard. Ne vaut-il pas mieux le garder pour emmener celui de nous qui ne pourra pas revenir que de rester, vous, ou de me laisser, moi, dans l'embarras de la solitude ? C'est vous qui avez raison, monsieur, répliqua Charny. Alors, se tournant vers le cocher, Dauphin, dit-il, arrêtez, vous attendrez ici. Dauphin s'était douté qu'on le rappellerait. Il n'avait pas pressé les chevaux et par conséquent n'avait point dépassé la portée de la voix. Dauphin s'arrêta donc, et comme ainsi que l'avait prévu Philippe, il se doutait de ce qui allait se passer, il s'accommoda sur son siège de façon à voir, à travers les arbres encore dégarnis de feuilles, la scène dont son maître lui paraissait devoir être un des acteurs. Cependant, peu à peu, Philippe et Charny gagnèrent dans les bois. Au bout de 5 minutes, ils étaient perdus, ou à peu près, dans la demi-teinte bleuâtre qui en estompait les horizons. Philippe, qui marchait le premier, rencontra une place sèche, dure sous le pied. Elle présentait un carré long, merveilleusement approprié à l'objet qui amenait les deux jeunes gens. « Sauf votre avis, monsieur de Charny, » dit Philippe, « il me semble que voilà un bon endroit. »« Excellent, monsieur, » répliqua Charny en ôtant son habit. Et Philippe ôta son habit à son tour, jeta son chapeau à terre et dégaina. Monsieur, dit Charny, dont l'épée était encore au fourreau, à tout autre qu'à vous, je dirais, chevalier, un mot, si l'on excuse, du moins de douceur, et nous voilà vos amis, mais à vous, mais à un brave qui vient d'Amérique, c'est-à-dire d'un pays où l'on se bat si bien, je ne puis... Et moi, à tout autre, répliqua Philippe, je dirais, monsieur, j'ai peut-être eu vis-à-vis de vous l'apparence d'un tort, mais à vous, mais à ce brave marin qui l'autre soir encore faisait l'admiration de toute la cour par un fait d'armes si glorieux, à vous, monsieur de Charny, je ne puis rien dire. Non, monsieur le comte, faites-moi l'honneur de vous mettre en garde. Le comte salua et tira l'épée à son tour. Monsieur, dit Charny, je crois que nous ne touchons ni l'un ni l'autre à la véritable cause de la querelle. Je ne vous comprends pas, comte, répliqua Philippe. Oh, vous me comprenez, monsieur, au contraire, et parfaitement même. Et comme vous venez d'un pays où l'on ne sait pas mentir, vous avez rougi en me disant que vous ne me compreniez pas. Garde, répéta Philippe. Les fers se croisèrent. Aux premières passes, Philippe s'aperçut qu'il avait sur son adversaire une supériorité marquée. Seulement, cette assurance, au lieu de lui donner une ardeur nouvelle, sembla le refroidir complètement. Cette supériorité, laissant à Philippe tout son sang-froid, il en résulta que son jeu devint bientôt aussi calme que s'il eût été dans une salle d'armes et, au lieu d'une épée, qu'il eût tenu un fleuret à la main. Mais Philippe se contentait de parer, et le combat durait depuis une minute qu'il n'avait pas encore porté un seul coup. « Vous me ménagez, monsieur, dit Charny, puis-je vous demander à quel propos ?» Et masquant une feinte rapide, il se fendit à fond sur Philippe. Mais Philippe enveloppa l'épée de son adversaire dans un contre encore plus rapide que la feinte, et le coup se trouva paré. Quoique la parade de Tavernet eût écarté l'épée de Charny de la ligne, Tavernet ne riposta point. Charny fit une reprise que Philippe écarta encore une fois, mais par une simple parade. Charny fut forcé de se relever rapidement. Charny était plus jeune, plus ardent surtout. Il avait honte, en sentant bouillir son sang, du calme de son adversaire. Il voulut le forcer à sortir de ce calme. « Je vous disais, monsieur, que nous n'avons touché ni l'un ni l'autre à la véritable cause de ce duel. » Philippe ne répondit pas. « La véritable cause, je vais vous la dire. Vous m'avez cherché querelle, car la querelle vient de vous. Vous m'avez cherché querelle par jalousie. » Philippe resta muet. « Voyons, dit Charny, s'animant en raison inverse du sang-froid de Philippe, quel jeu jouez-vous, monsieur de Tavernet? Votre intention était-elle de me fatiguer la main? Ce serait un calcul indigne de vous. Morbleu, tuez-moi, si vous pouvez, mais au moins tuez-moi en pleine défense. » Philippe secoua la tête. « Oui, monsieur, dit-il, le reproche que vous me faites est mérité. Je vous ai cherché querelle et j'ai eu tort. » « Il ne s'agit plus de cela maintenant, monsieur. Vous avez l'épée à la main. Servez-vous de votre épée pour autre chose que pour parer, ou, si vous ne m'attaquez pas mieux, défendez-vous au moins. » « Monsieur, reprit Philippe, j'ai l'honneur de vous dire une seconde fois que j'ai eu tort et que je me repens. » Mais Charny avait le sang trop enflammé pour comprendre la générosité de son adversaire. Il la prit à offense. « Ah, dit-il, je comprends, vous voulez faire de la magnanimité vis-à-vis de moi, c'est cela, monsieur le chevalier. Ce soir ou demain, vous comptez dire à quelque belle dame que vous m'avez amené sur le terrain et que là, vous m'avez donné la vie. »« Monsieur le comte, dit Philippe, en vérité, je crains que vous ne deveniez fou. Vous vouliez tuer monsieur de Cagliostro pour plaire à la reine, n'est-ce pas, et pour plaire plus sûrement encore à la reine, moi aussi, vous voulez me tuer, mais par le ridicule. » « Ah, voilà, un mot de trop !» s'écria Philippe en fronçant le sourcil. « Et ce mot me prouve que votre cœur n'est pas aussi généreux que je le croyais. »« Eh bien, percez donc ce cœur !» dit Charny en se découvrant juste au moment où Philippe passait un dégagement rapide et se fendait. L'épée glissa le long des côtes et ouvrit un sillon sanglant sous la chemise de toile fine. « Enfin !» s'écria Charny joyeux. « Je suis donc blessé. Maintenant, si je vous tue, j'aurai le beau rôle. » « Allons, décidément, dit Philippe, vous êtes tout à fait fou, monsieur. Vous ne me tuerez pas, et vous aurez un rôle tout vulgaire, qui vous serez blessé sans cause et sans profit, nul ne sachant pourquoi nous nous sommes battus. » Charny poussa un coup droit si rapide que cette fois, ce fut à grand-peine que Philippe arriva à temps à la parade. Mais en arrivant à la parade, il lia l'épée et d'un vigoureux coup de fouet la fit sauter à 10 pas de son adversaire. Alors il s'élança sur l'épée qu'il brisa d'un coup de talon. « Monsieur de Charny, dit-il, vous n'aviez pas à me prouver que vous êtes brave. Vous me détestez donc bien que vous avez mis cet acharnement à vous battre contre moi ? » Charny ne répondit pas, il pâlissait visiblement. Philippe le regarda pendant quelques secondes pour provoquer de sa part un aveu ou une dénégation. « Allons, monsieur le comte, dit-il, le sort en est jeté, nous sommes ennemis. » Charny chancela, Philippe s'élança pour le soutenir, mais le comte repoussa sa main. « Merci, dit-il, j'espère aller jusqu'à ma voiture. Prenez au moins ce mouchoir pour étancher le sang. Volontiers. » Et il prit le mouchoir. « Et mon bras, monsieur, au moindre obstacle que vous rencontrerez, chancelant comme vous êtes, vous tomberez, et votre chute vous sera une douleur inutile. L'épée n'a traversé que les chairs, dit Charny, je ne sens rien dans la poitrine. Tant mieux, monsieur, et j'espère être bientôt guéri. Tant mieux encore, monsieur, mais si vous hâtez de vos voeux cette guérison pour recommencer le combat, je vous préviens que vous retrouverez difficilement en moi un adversaire. » Charny essaya de répondre, mais les paroles moururent sur ses lèvres. Il chancela, et Philippe n'eut que le temps de le retenir dans ses bras. Alors il le souleva, comme il eût fait d'un enfant, et le porta, à moitié évanoui, jusqu'à sa voiture. Il est vrai que Dauphin, ayant à travers les arbres vu ce qui se passait, abrégea le chemin en venant au-devant de son maître. On déposa Charny dans la voiture, il remercia Philippe d'un signe de tête. « Allez au pas, cocher, » dit Philippe. « Mais vous, monsieur, » murmura le blessé, « oh, ne vous inquiétez pas de moi. » Et, saluant à son tour, il referma la portière. Philippe regarda le carrosse s'éloigner lentement, puis le carrosse ayant disparu au détour d'une allée, il prit lui-même la route qui devait le ramener à Paris par le chemin le plus court. Puis, se retournant une dernière fois et apercevant le carrosse qui, au lieu de revenir comme lui à Paris, tournait du côté de Versailles et se perdait dans les arbres, il prononça ces trois mots, mots profondément arrachés de son cœur après une profonde méditation. « Elle le plaindra. » À la porte de garde, Philippe trouva un carrosse de louage et sauta dedans. « Rue Neuf-Saint-Gilles, » dit-il au cocher, « et vivement !» Un homme qui vient de se battre et qui a conservé un air vainqueur, un homme vigoureux dont la taille annonce la noblesse, un homme vêtu en bourgeois et dont la tournure dénonce un militaire, c'était plus qu'il n'en fallait pour stimuler le brave homme, dont le fouet, s'il n'était pas comme le trident de Neptune, le sceptre du monde, n'en était pas moins pour Philippe un sceptre très important. L'automédon à 24 sous dévora donc l'espace et apporta Philippe tout frémissant rue Neuf-Saint-Gilles à l'hôtel du comte de Cagliostro. L'hôtel était d'une grande simplicité extérieure, d'une grande majesté de ligne, comme la plupart des bâtiments élevés sous Louis XIV après les concetti de marbre ou de briques entassés par le règne de Louis XIII sur la Renaissance. Un vaste carrosse attelé de deux bons chevaux se balançait sur ses moelleux ressorts dans une vaste cour d'honneur. Le cocher, sur son siège, dormait dans sa vaste houppelande fourrée de renards. Deux valets, dont l'un portait un couteau de chasse, arpentaient silencieusement le perron. À part ces personnages agissants, nul symptôme d'existence n'apparaissait dans l'hôtel. Le fiacre de Philippe, ayant reçu l'ordre d'entrer, tout fiacre qu'il était, héla le Suisse qui aussitôt fit crier les gonds de la porte massive. Philippe sauta de terre, s'élança vers le perron et, s'adressant aux deux valets à la fois, « Monsieur le comte de Cagliostro, » dit-il. « Monsieur le comte va sortir, » répondit un des valets. « Alors, raison de plus pour que je me hâte, » dit Philippe, « car j'ai besoin de lui parler avant qu'il ne sorte. Annoncez le chevalier Philippe de Tavernet. » Et il suivit le laquais d'un pas si pressé qu'il arriva en même temps que lui au salon. « Le chevalier Philippe de Tavernet, » répéta après le valet une voix mâle et douce à la fois. « Faites entrer. » Philippe entra sous l'influence d'une certaine émotion que cette voix si calme avait fait naître en lui. « Excusez-moi, monsieur, » dit le chevalier, en saluant un homme de grande taille, d'une vigueur et d'une fraîcheur peu communes, et qui n'était autre que le personnage qui nous est déjà successivement apparu à la table du maréchal de Richelieu, au paquet de Mesmer, dans la chambre de Mademoiselle Oliva et au bal de l'Opéra. « Vous excusez, monsieur, et de quoi donc ? » répondit-il. mais de ce que je vais vous empêcher de sortir. Ah, il eût fallu vous excuser si vous étiez venu plus tard, chevalier. Pourquoi cela? Parce que je vous attendais. Philippe fronça le sourcil. Comment vous m'attendiez? Oui, j'avais été prévenu de votre visite.
De ma visite à moi? Vous étiez prévenu?
Mais oui, depuis 2 heures. Il doit y avoir 1 heure ou 2, n'est-ce pas, que vous vouliez venir ici lorsqu'un accident, indépendant de votre volonté, vous a forcé de retarder l'exécution de ce projet.
Philippe serra les poings. Il sentait que cet homme prenait une étrange influence sur lui.
Mais lui, sans apercevoir le moins du monde des mouvements nerveux qui agitaient Philippe, « Asseyez-vous, monsieur de Tavernay, dit-il, je vous en prie. » Et il avança à Philippe un fauteuil placé devant la cheminée. « Ce fauteuil avait été mis là pour vous, » ajouta-t-il.
« Trêve de plaisanterie, monsieur le comte, » répliqua Philippe, d'une voix qu'il essayait de rendre aussi calme que celle de son hôte, mais de laquelle, cependant, il ne pouvait faire disparaître un léger tremblement.
« Je ne plaisante pas, monsieur, je vous attendais, vous dis-je. »
« Allons, trêve de charlatanisme, monsieur. Si vous êtes devin, je ne suis pas venu pour mettre à l'épreuve votre science divinatoire. Si vous êtes devin, tant mieux pour vous, car vous savez déjà ce que je viens dire, et vous pouvez par conséquent vous mettre à l'avance à l'abri. »«
À l'abri, » reprit le comte avec un singulier sourire. « Et à l'abri de quoi, s'il vous plaît ?
Devinez, puisque vous êtes devin. » »«
Soit. » Pour vous faire plaisir, je vais vous épargner la peine de m'exposer le motif de votre visite. Vous venez me chercher une querelle.
Vous savez cela?
Sans doute.
Alors, vous savez à quel propos? S'écria Philippe.
À propos de la reine. À présent, monsieur, à votre tour. Continuez, je vous écoute.
Et ces derniers mots furent prononcés, non plus avec l'accent courtois de l'hôte, mais avec le ton sec et froid de l'adversaire.
« Vous avez raison, monsieur, dit Philippe, et j'aime mieux cela. »
La chose tombe à merveille, alors.
« Monsieur, il existe un certain pamphlet,
il y a beaucoup de pamphlets, monsieur,
publié par un certain gazetier,
il y a beaucoup de gazetiers.
Attendez, ce pamphlet, nous nous occuperons du gazetier plus tard. »
Permettez-moi de vous dire, monsieur, interrompit Cagliostro avec un sourire, que vous en êtes déjà bien occupé.
C'est bien. Je disais donc qu'il y avait un certain pamphlet dirigé contre la reine.
Cagliostro fit un signe de tête.
Vous le connaissez, ce pamphlet?
Oui, monsieur.
Vous en avez même acheté 1000 exemplaires.
Je ne le nie pas. Ces 1000 exemplaires, fort heureusement, ne sont pas parvenus entre vos mains.
Qui vous fait penser cela, monsieur? Dit Cagliostro.
C'est que j'ai rencontré le commissionnaire qui emportait le ballot, c'est que je l'ai payé, c'est que je l'ai dirigé chez moi, où mon domestique, prévenu d'avance, a dû le recevoir.
Pourquoi ne faites-vous pas vous-même vos affaires jusqu'au bout?
Que voulez-vous dire?
Je pense qu'elles seraient mieux faites.
Je n'ai point fait mes affaires jusqu'au bout parce que, tandis que mon domestique était occupé de soustraire à votre singulière bibliomanie ces 1000 exemplaires, moi je détruisais le reste de l'édition.
Ainsi vous êtes sûr que les 1000 exemplaires qui m'étaient destinés sont chez vous?
Hein, j'en suis sûr.
Vous trompez, monsieur.
Comment cela? Dit Tavernay avec un serrement de cœur. Et pourquoi n'y serait-il pas?
« Mais parce qu'ils sont ici, » dit tranquillement le comte, en s'adossant à la cheminée.
Philippe fit un geste menaçant.
« Ah, vous croyez, dit le comte, aussi flegmatique que Nestor, vous croyez que moi, un devin, comme vous dites, je me laisserai jouer ainsi.
Vous avez cru avoir une idée en soudoyant le commissionnaire, n'est-ce pas?
Eh bien, j'ai un intendant, moi. Mon intendant a eu aussi une idée. Je le paie pour cela. Il a deviné. C'est tout naturel que l'intendant d'un devin devine. Il a deviné que vous viendrez chez le gazetier, que vous rencontreriez le commissionnaire. Il l'a donc suivi. Il l'a menacé de lui faire rendre l'or que vous lui avez donné. L'homme a eu peur, et au lieu de continuer son chemin vers votre hôtel, il a suivi mon intendant ici.
« Vous en doutez ?»«
J'en doute. »«
Vide pedes, vide manus, » a dit Jésus à saint Thomas. « Je vous dirai à vous, monsieur de Tavernay, voyez l'armoire et palpez les brochures. »
et en disant ces mots, il ouvrit un meuble de chêne admirablement sculpté, et dans le casier principal, il montra au chevalier pâlissant les 1000 exemplaires de la brochure, encore imprégnée de cette odeur moisie du papier humide. Philippe s'approcha du comte. Celui-ci ne bougea point, quoique l'attitude du chevalier fût des plus menaçantes. « Monsieur, dit Philippe, vous me paraissez être un homme courageux. Je vous somme de me rendre raison, l'épée à la main. »« Raison de quoi ? » demanda Cagliostro. « De l'insulte faite à la reine, insulte dont vous vous rendez complice en détenant ne fût-ce qu'un exemplaire de cette feuille. » « Monsieur, dit Cagliostro, sans changer de posture, vous êtes en vérité dans une erreur qui me fait peine. J'aime les nouveautés, les bruits scandaleux, les choses éphémères. Je collectionne, afin de me souvenir plus tard de 1000 choses que j'oublierai sans cette précaution. J'ai acheté cette gazette. En quoi voyez-vous que j'ai insulté quelqu'un en l'achetant ? Vous m'avez insulté, moi.
Vous ?
Oui, moi, moi, monsieur, comprenez-vous ?
Non, je ne comprends pas, sur l'honneur.
Mais comment mettez-vous, je vous le demande, une pareille insistance à acheter une si vilaine brochure ?
Je vous l'ai dit, la manie des collections.
Quand on est homme d'honneur, monsieur, on ne collectionne pas les infamies.
Vous m'excuserez, monsieur, mais je ne suis pas de votre avis sur la qualification de cette brochure. C'est un pamphlet, peut-être, mais ce n'est pas une infamie.
Vous avouerez au moins que c'est un mensonge.
« Vous vous trompez encore, monsieur, car Sa Majesté la Reine a été au baquet de Mesmer. »«
C'est faux, monsieur. »«
Vous voulez dire que j'en ai menti ?»«
Je ne veux pas le dire, je le dis. »«
C'est bien, puisqu'il en est ainsi, je vous répondrai par un seul mot. Je l'ai vu. »«
Vous l'avez vu ?»«
Comme je vous vois, monsieur. »
Philippe regarda son interlocuteur en face. Il voulut lutter avec son regard si franc, si noble, si beau, contre le regard lumineux de Cagliostro, mais cette lutte finit par le fatiguer. Il détourna la vue en s'écriant « Eh bien, je n'en persiste pas moins à dire que vous mentez !»
Cagliostro haussa les épaules, comme il l'eût fait à l'insulte d'un fou.
« Ne m'entendez-vous pas, monsieur ? » fit sourdement Philippe.
« Au contraire, monsieur, je n'ai pas perdu une parole de ce que vous dites.
Eh bien, ne savez-vous pas ce que vaut un démenti ?
Si, monsieur, répondit Cagliostro, il y a même un proverbe en France qui dit qu'un démenti vaut un soufflet.
Eh bien, je ne m'étonne que d'une chose.
De laquelle ? C'est de n'avoir pas encore vu votre main se lever sur mon visage, puisque vous connaissez le proverbe français.
Avant de me faire gentilhomme et de m'apprendre le proverbe français, Dieu m'a fait homme, qui m'a dit d'aimer mon semblable.
Ainsi, monsieur, vous me refusez satisfaction, l'épée à la main.
Je ne paie que ce que je dois.
Alors vous me donnerez satisfaction d'une autre manière.
Comment cela ?
Je ne vous traiterai pas plus mal qu'un homme de noblesse doit en traiter un autre. Seulement, j'exigerai que vous brûliez en ma présence tous les exemplaires qui sont dans l'armoire.
Et moi, je vous refuserai.
Réfléchissez. C'est réfléchi.
Vous allez m'exposer à prendre avec vous le parti que j'ai pris avec le gazetier.
Ah, les coups de canne, dit Cagliostro en riant et sans remuer plus que n'eût fait une statue.
Ni plus ni moins, monsieur. Oh, vous n'appellerez pas vos gens.
Moi, allons donc, et pourquoi appellerai-je mes gens? Cela ne les regarde pas. Je ferai bien mes affaires moi-même. Je suis plus fort que vous.
Vous doutez, je vous jure.
Ainsi réfléchissez à votre tour. Vous allez vous approcher de moi avec votre canne. Je vous prendrai par le cou et par l'échine, et je vous jetterai à 10 pas de moi. Et cela, entendez-vous bien, autant de fois que vous essaierez de revenir sur moi.
Jeu de l'or anglais, c'est-à-dire jeu de crocheteur. Eh bien, soit, monsieur d'Hercule, j'accepte.
Et Philippe, ivre de colère, se jeta sur Cagliostro, qui tout à coup raidit ses bras comme deux crampons d'acier, saisit le chevalier à la gorge et à la ceinture, et le lança, tout étourdi, sur une pile de coussins épais qui garnissait un sofa dans l'angle du salon. Puis, après ce coup de force prodigieux, il se remit devant la cheminée, dans la même posture et comme si rien ne s'était passé.
Philippe s'était relevé, pâle et écumant, mais la réaction d'un froid raisonnement vint soudain lui rendre ses facultés morales. Il se redressa, ajusta son habit et ses manchettes, puis, d'une voix sinistre, Vous êtes en effet fort comme quatre hommes, monsieur, dit le chevalier, mais vous avez la logique moins nerveuse que le poignet. En me traitant comme vous venez de le faire, vous avez oublié que vaincu, humilié, à jamais votre ennemi, je venais d'acquérir le droit de vous dire, l'épée à la main, compte ou je vous tue. Cagliostro ne bougea point. L'épée à la main, vous dis-je, vous êtes mort, continua Philippe. Vous n'êtes pas encore assez près de moi, monsieur, pour que je vous traite comme la première fois, répliqua le comte, et je ne m'exposerai pas à être blessé par vous, tué même, comme ce pauvre Gilbert. Gilbert, s'écria Philippe, chancelant, quel nom avez-vous prononcé là? Heureusement que vous n'avez pas un fusil cette fois, mais une épée. Monsieur, s'écria Philippe, vous avez prononcé un nom. Oui, n'est-ce pas, qui a éveillé un terrible écho dans vos souvenirs. Monsieur, un nom que vous croyez n'entendre jamais, car vous étiez seul avec le pauvre enfant dans cette grotte des Açores, n'est-ce pas, quand vous l'avez assassiné. Ah, reprit Philippe, défendez-vous, défendez-vous. Si vous saviez, dit Cagliostro en regardant Philippe, si vous saviez comme il serait facile de vous faire tomber l'épée des mains. Avec votre épée? Oui, d'abord avec mon épée, si je voulais. Mais voyons, voyons donc. Oh, je ne m'y hasarderai pas, j'ai un moyen plus sûr. L'épée à la main pour la dernière fois et vous êtes mort, s'écria Philippe en bondissant vers le comte. Mais celui-ci, menacé cette fois par la pointe de l'épée, distante de 3 pouces à peine de sa poitrine, prit dans sa poche un petit flacon qu'il déboucha et en jeta le contenu au visage de Philippe. À peine la liqueur eut-elle touché le chevalier que celui-ci chancela, laissa tomber son épée, tourna sur lui-même et tombant sur les genoux comme si ses jambes eussent perdu la force de le soutenir, pendant quelques secondes perdit absolument l'usage de ses sens. Cagliostro l'empêcha de tomber à terre tout à fait, le soutint, lui remit l'épée au fourreau, l'assit sur un fauteuil, attendit que sa raison fût parfaitement revenue, et alors... « Ce n'est plus à votre âge, chevalier, qu'on fait des folies, dit-il. Cessez donc d'être un fou comme un enfant et écoutez-moi. » Philippe se secoua, se raidit, chassa la terreur qui envahissait son cerveau et murmura « Monsieur, monsieur, est-ce donc là ce que vous appelez des armes de gentilhomme ?» Cagliostro haussa les épaules. « Vous répétez toujours la même phrase, dit-il. » Quand nous autres, gens de noblesse, nous avons ouvert largement notre bouche pour laisser passer le mot « gentilhomme », tout est dit. Qu'appelez-vous une arme de gentilhomme? Voyons, est-ce votre épée qui vous a servi si mal contre moi? Est-ce votre fusil qui vous a si bien servi contre Gilbert? Qui fait les hommes supérieurs, chevalier? Croyez-vous que ce soit ce mot sonore « gentilhomme » Non. C'est la raison d'abord, la force ensuite, la science enfin. Eh bien, j'ai usé de tout cela vis-à-vis de vous. Avec ma raison, j'ai bravé vos injures, croyant vous amener à m'écouter. Avec ma force, j'ai bravé votre force. Avec ma science, j'ai éteint à la fois vos forces physiques et morales. Il me reste maintenant à vous prouver que vous avez commis 2 fautes en venant ici, la menace à la bouche. « Voulez-vous me faire l'honneur de m'écouter ?»« Vous m'avez anéanti, dit Philippe, je ne puis faire un mouvement. »« Vous vous êtes rendu maître de mes muscles, de ma pensée, et puis vous venez me demander de vous écouter quand je ne puis faire autrement ?» Alors qu'Agliostro prit un petit flacon d'or que tenait sur la cheminée un esculape de bronze. « Respirez ce flacon, chevalier, dit-il, avec une douceur pleine de noblesse. » Philippe obéit. Les vapeurs qui obscurcissaient son cerveau se dissipèrent. Il lui semblait que le soleil, descendant dans les parois de son crâne, en illuminait toutes les idées. « Oh, je renais, dit-il. » « Et vous vous sentez bien, c'est-à-dire libre et fort ?»« Oui, avec la mémoire du passé ?»« Oh oui. » »« Et comme j'ai affaire à un homme de cœur qui a de l'esprit, cette mémoire qui vous revient me donne tout avantage dans ce qui s'est passé entre nous. »« Non, dit Philippe, car j'agissais en vertu d'un principe sacré. »« Que faisiez-vous donc ?»« Je défendais la monarchie. »« Vous, vous défendiez la monarchie ?»« Oui, moi. » Vous, un homme qui êtes allé en Amérique défendre la République, mon Dieu, soyez donc franc. Ou ce n'est pas la République que vous défendiez là-bas, ou ce n'est pas la monarchie que vous défendez ici. » Philippe baissa les yeux. Un immense sanglot faillit lui briser le cœur. « Aimez, continua Cagliostro, aimez ceux qui vous dédaignent, aimez ceux qui vous oublient, aimez ceux qui vous trompent. C'est le propre des grandes âmes d'être trahies par leurs grandes affections. C'est la loi de Jésus de rendre le bien pour le mal. Vous êtes chrétien, monsieur de Tavernet. » « Monsieur, s'écria Philippe, effrayé de voir Cagliostro lire ainsi dans le présent et dans le passé, pas un mot de plus. Car si je ne défendais pas la royauté, je défendais la reine, c'est-à-dire une femme respectable, innocente, respectable encore quand elle ne sort plus, car c'est une loi divine que de défendre les faibles. » Les faibles, une reine, vous appelez ça un être faible, celle devant qui 28 millions d'êtres vivants et pensants plient le genou et la tête. Allons donc. Monsieur, on la calomnie. Qu'en savez-vous? Je veux le croire. Vous pensez que c'est votre droit? Sans doute. Eh bien, mon droit, à moi, est de croire le contraire. Vous agissez comme un mauvais génie. « Qui vous l'a dit ? » s'écria Cagliostro, dont l'œil étincela tout à coup et inonda Philippe de lueur. « D'où vous vient cette témérité de penser que vous avez raison, que moi j'ai tort ? D'où vous vient cette audace de préférer votre principe au mien ? Vous défendez la royauté, vous. Eh bien, si je défendais l'humanité, moi ? Vous dites « Rendez à César ce qui appartient à César ». Je vous dis « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Républicain de l'Amérique, chevalier de l'ordre de Cincinnatus, je vous rappelle l'amour des hommes, à l'amour de l'égalité. Vous marchez sur les peuples pour briser les mains des reines, vous. Moi, je foule aux pieds les reines pour élever les peuples d'un degré. Je ne vous trouble pas dans vos adorations, ne me troublez pas dans mon travail. Je vous laisse le grand jour, le soleil des cieux, le soleil des cours. Laissez-moi l'ombre et la solitude. Vous comprenez la force de mon langage, n'est-ce pas? Comme vous avez compris tout à l'heure la force de mon individualité. Vous me disiez, meurs, toi qui as offensé l'objet de mon culte. Je vous dis, moi, vis, toi qui combats mes adorations. Et si je vous dis cela, c'est que je me sens tellement fort avec mon principe que ni vous, ni les vôtres, quelques efforts que vous fassiez, ne retarderez ma marche un seul instant. « Monsieur, vous m'épouvantez, dit Philippe. Le premier peut-être dans ce pays, j'entrevois, grâce à vous, le fond d'un abîme où court la royauté. Soyez prudent, alors, si vous avez vu le précipice. « Vous qui me dites cela, répliqua Philippe ému, du ton paternel avec lequel Cagliostro lui avait parlé, vous qui me révélez des secrets si terribles, vous manquez encore de générosité, car vous savez bien que je me jetterai dans le gouffre avant d'y voir tomber ceux que je défends. Eh bien donc, je vous aurais prévenu, et comme le préfet de Tibère, je me laverai les mains, monsieur de Tavernet. « Eh bien, moi, s'écria Philippe en courant à Cagliostro avec une ardeur fébrile, moi qui ne suis qu'un homme faible et inférieur à vous, j'userai envers vous des armes du faible, je vous aborderai l'œil humide, la voix tremblante, les mains jointes, je vous supplierai de m'accorder, pour cette fois du moins, la grâce de ceux que vous poursuivez, je vous demanderai pour moi, entendez-vous, pour moi qui ne puis, je ne sais pourquoi, m'habituer à voir en vous un ennemi, je vous attendrirai, je vous convaincrai, j'obtiendrai enfin que vous ne laissiez pas derrière moi le remords d'avoir vu la perte de cette pauvre reine et de ne l'avoir pas conjurée. « Enfin, monsieur, j'obtiendrai, n'est-ce pas, que vous détruisiez ce pamphlet qui fera pleurer une femme. Je l'obtiendrai de vous, ou, sur mon honneur, sur cet amour fatal que vous connaissez si bien, avec cette épée impuissante contre vous, je me percerai le cœur à vos pieds. » « Ah !» murmura Cagliostro, en regardant Philippe avec des yeux pleins d'une éloquente douleur. « Ah, que ne sont-ils pas tous comme vous êtes? Je serai à eux, et ils ne périraient pas. » « Monsieur, monsieur, je vous en prie, répondez à ma demande, supplia Philippe. » « Comptez, dit Cagliostro après un silence, comptez si les 1000 exemplaires sont bien là et brûlez-les vous-même jusqu'au dernier. » Philippe sentit que son cœur montait à ses lèvres. Il courut à l'armoire, en tira les brochures et les jeta au feu en serrant avec effusion la main de Cagliostro. « Adieu, adieu, monsieur, dit-il, 100 fois merci pour ce que vous avez fait pour moi. » Et il partit. « Je devais au frère, dit Cagliostro, en le voyant s'éloigner, cette compensation pour ce qu'a enduré la sœur. » Puis, haussant la voix, « Mes chevaux !»